Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte attirée du média suivant, la presse. Au programme, l'activité physique est bonne pour la santé cognitive. La loi s'attaquera au carcan syndical et les événements culturels se mettent au vert. Bonne écoute.
L'activité physique est bonne pour la santé cognitive. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 21 avril 2023 dans La Presse. Les effets bénéfiques de l'activité physique modérée sur la cognition sont supérieurs à ceux de l'activité physique intense, ont constaté des chercheurs de l'Université d'Ottawa. Leur étude serait aussi la première à démontrer par l'approche génétique les effets de l'activité physique sur la santé cognitive. Le professeur Mathieu P. Boisgontier et ses collègues ont mesuré que les bienfaits cognitifs de l'activité physique modérée étaient de 50 % supérieurs à ceux de l'activité physique soutenue. On a montré qu'il y avait une relation entre l'activité physique d'intensité modérée et d'intensité plus élevée qui allait expliquer le niveau de cognition, le niveau de capacité cognitive à réfléchir, et ça, quel que soit l'âge, a dit M. Boisgontier, qui est professeur agrégé de sciences de la réadaptation à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa et chercheur principal à l'Institut de recherche Bruyère. On avait une population de 8 à 96 ans, et quel que soit le sexe aussi, qu'on soit un homme ou une femme, ça marche. Les chercheurs ont utilisé une technique appelée randomisation mendélienne à facteur de confusion génétique latent, qui analyse les infimes différences génétiques qui existent entre les individus. Ces différences, a dit le professeur Boisgontier, peuvent entre autres expliquer pourquoi certains sont plus portés que d'autres à faire de l'activité physique en compagnie de facteurs comme l'environnement, l'éducation et le statut socio-économique. Les résultats soulignent à nouveau que l'exercice, peu importe son intensité, a un effet positif sur la santé cérébrale et sur différents facteurs comme la mémoire, la capacité à résoudre des problèmes et à se concentrer, et le temps de réaction, ont indiqué les chercheurs par voie de communiqué. Ces résultats, ont dit les chercheurs, rejoignent ceux d'études antérieures qui avaient démontré l'effet de l'exercice sur la libération d'une protéine, la BDNF, qui favorise la création de nouveaux neurones, de nouvelles connexions entre ces neurones et de nouveaux vaisseaux sanguins qui alimentent ces neurones. Cet effet expliquerait les mécanismes qui sont à la base des bienfaits de l'activité physique sur les fonctions cognitives. Jamais trop tard. Toute séance d'activité physique stimule la production de la protéine BDNF dans le cerveau, a dit M. Boisgontier, et les données rappellent donc qu'il n'est jamais trop tard pour s'activer physiquement et en retirer des bienfaits. On comprend bien que, quel que soit le moment où on commence dans la vie, on va avoir les bénéfices parce que, même si moi j'ai fait de l'exercice toute ma vie et que vous commencez maintenant, la libération de ces protéines va être la même chez vous que chez moi, a-t-il expliqué. Donc, c'est vraiment quelque chose, de mon point de vue, qui est assez fort et qui montre que, quel que soit le moment où vous commencez, cela a des effets bénéfiques sur la cognition. Les résultats de l'étude ont aussi démontré que l'effet bénéfique de l'activité physique modérée sur la cognition est 1,5 fois supérieur à celui de l'activité physique intense, poursuit M. Boisgontier, ce qui est cohérent avec ce que l'on retrouvait déjà dans la littérature scientifique. L'aspect psychologique de l'activité physique entre possiblement en jeu, a-t-il expliqué. Une activité intense demandera nécessairement plus d'efforts et pourra même être plus souffrante, ce qui réduira le plaisir qu'en retirent certains et pourra même miner leur motivation à répéter l'expérience. Il faut continuer à transmettre ce message de santé publique que l'activité physique, c'est bon pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale et pour la cognition tout au cours de la vie, a conclu M. Boisgontier. Quelque 350 000 personnes ont participé à ce projet qui a fait l'objet d'une collaboration internationale entre le Canada, les universités suisses de Genève, de Lausanne et de Fribourg, les universités américaines de l'Arizona et de la Californie du Sud et l'Hôpital général du Massachusetts. Les conclusions de cette étude ont été publiées par la très influente revue scientifique Nature. C'était « L'activité physique est bonne pour la santé cognitive », un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 21 avril 2023 dans La Presse. La loi s'attaquera au carcan syndical, un texte de Francis Vaille, paru le 27 mars 2023 dans La Presse. La loi s'attaquera au carcan syndical. Les colonnes du temple vont shaker. Ces termes utilisés récemment par Christian Dubé reflètent bien les effets qu'auront Santé Québec et la nouvelle loi sur l'efficacité en santé. La loi frappera très fort, selon les renseignements que j'ai obtenus de diverses sources fiables du gouvernement Legault. Québec fusionnera l'ancienneté syndicale des employés de tout le Québec, obligera les médecins spécialistes à pratiquer en région, mettra fin aux conseils d'administration régionaux et nommera des directeurs généraux dans tous les grands établissements, entre autres. Le projet de loi, créé en Santé Québec notamment, sera déposé mercredi ou jeudi. Cet organisme central pour gérer le réseau aura son président, ses vice-présidents ressources humaines, technologiques et autres, ainsi qu'un conseil d'administration comme Hydro-Québec. Une fois en place, les 34 directeurs généraux des centres régionaux, les CIS et les CIUS, se rapporteront directement à Santé-Québec et non plus à des conseils d'administration locaux ou à la sous-ministre en titre du ministère de la Santé et des services sociaux. De 136 à 4 tables de négo. En conséquence, les 375 000 employés du réseau auront, ultimement, un seul employeur, Santé Québec, plutôt que les 34 employeurs locaux. Cette centralisation aura éventuellement pour effet de fusionner les conventions collectives locales qui sont devenues un capharnaüm à gérer avec leurs particularités. Ainsi, au lieu des 136 tables de négociation actuelles avec les syndicats, la loi les fera passer à seulement 4 tables nationales. Cette réforme simplifiera grandement les prochaines négociations, celles qui suivront les négos en cours, et l'organisation du travail, prévoit-on au gouvernement. En relevant d'un seul employeur, les employés verront leur ancienneté reconnue partout dans le réseau, plutôt que dans leur seul CIS ou CIUS. Par exemple, une infirmière d'expérience de Laval ou de Gaspé pourra être embauchée en Montérégie ou ailleurs sans perdre sa permanence et son ancienneté, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'objectif n'est pas de forcer les employés à changer de région, mais de rendre le réseau plus efficace en améliorant la mobilité, me dit-on. En octobre dernier, le chroniqueur Patrick Lagacé avait rapporté le cas pathétique d'une fillette atteinte d'un syndrome rare qui était victime des règles syndicales. En déménageant d'un CIC à Laval à 8 km, la fillette est passée à un cheveu de perdre son infirmière extrêmement dévouée parce que cette dernière perdait ses acquis syndicaux en passant d'un CIS à l'autre. La loi aura pour effet de corriger ce genre de problème. La nouvelle loi sera complémentaire à d'autres mesures souhaitées par le gouvernement, comme des salaires qui varient significativement pour les infirmières selon leur région de travail, leur formation ou leur horaire. L'implantation de ces salaires différenciés est l'une des demandes du gouvernement dans les négociations actuelles, mais les syndicats s'y opposent, pour l'essentiel, jugeant que tous doivent être traités également en principe. Actuellement, une infirmière bachelière obtient un salaire horaire de départ de seulement 1 $ de plus qu'une infirmière avec un DEC du Cégep. De plus, les primes actuelles au public encouragent très peu le travail de nuit ou en région, ce qui expliquerait en partie pourquoi les agences privées ont pu recruter autant d'infirmières misant sur ce genre de primes. La nouvelle loi s'inscrit également dans la volonté de Québec de faire primer la compétence sur l'ancienneté pour certains postes clés, un enjeu très controversé. Le gouvernement aimerait que de 10 à 15 % des postes du réseau soient d'abord pourvus selon les compétences, m'indique l'une de mes sources. Cet élément doit être avalisé par les syndicats dans les actuelles négociations, mais l'éventuel décloisonnement pan-québécois des acquis syndicaux, que permettra la loi, entraînerait un meilleur appariement des postes. En avril 2021, dans une de mes 4 chroniques intitulées « La maison des fous », je rapportais le cas d'une clinique qui avait lourdement souffert de cette règle stricte d'ancienneté dans le remplacement de son infirmière responsable de jour. Ni le mérite, ni les compétences techniques n'avaient pu être pris en compte. Seule l'ancienneté syndicale locale primait. Cette exigence a forcé la nomination d'infirmières dépassées par la fonction, provoquant leur démission à tour de rôle, ce qui a nui au fonctionnement de la clinique et aux patients pendant plusieurs mois. Dans une autre chronique, une médecin affirmait que les règles syndicales l'empêchaient d'avoir une secrétaire compétente. « Nous avons le syndicat à affronter et les dirigeants ont peur d'affronter les syndicats. On aide des incompétents à rester en place », disait-elle. Des exigences pour les médecins spécialistes. Autre coup de tonnerre. La loi obligera les médecins spécialistes à avoir une responsabilité populationnelle, ce qui les contraindra à pratiquer dans certains quartiers et certaines régions, comme c'est le cas des médecins de famille. Selon mes informations, le gouvernement veut que les médecins spécialistes, en parallèle de la loi, prennent une plus grande part des responsabilités dans l'amélioration de l'efficacité du réseau. Par exemple, actuellement, les médecins spécialistes ne sont pas tenus d'être présents dans les urgences après 16 heures, ce qui contribue à l'allongement de l'attente des patients. Le ministère juge que la non-obligation de pratique en région pour les spécialistes est l'une des raisons qui explique la popularité de la médecine spécialisée chez les jeunes au détriment de la médecine familiale, un phénomène que la loi pourrait freiner. Vous écoutez, la loi s'attaquera au carcan syndical, un texte de Francis Vaille, paru le 27 mars 2023 dans La Presse. Conseil d'administration locaux. Par ailleurs, la loi mettra fin aux conseils d'administration locaux des CIS et des CIUS tels qu'on les connaît. Le rôle de ces conseils locaux sera redéfini. Le premier ministre François Legault y faisait référence dans une entrevue avec La Presse il y a 3 semaines où il parlait de puiser dans sa réserve de courage. Selon ce que j'ai appris, ces conseils d'établissement seront composés de leurs PDG de CIUS respectifs ainsi que de gens du milieu communautaire et de patients. Impossible de savoir, pour l'instant, s'ils auront seulement un rôle consultatif ou un certain pouvoir décisionnel. Selon une source, ils auraient à faire une forme de reddition de compte annuel à la population sur le fonctionnement de leur CIUS. En revanche, pour la gestion de proximité, Québec nommera un directeur général responsable dans chaque grand établissement, hospitalier et autres, entre autres, comme suggéré dans le rapport Savoie en juin 2022. Ce genre de nomination est survenu dans les CHSLD durant la vague pandémique du printemps 2020. Par exemple, en ce moment, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et l'hôpital Santa Cabrini comptent un seul directeur général. Après les changements, chacun aura son propre patron responsable, me dit-on. Environ 80 cadres seront ainsi nommés pour occuper ces fonctions. Au bout du compte, le gouvernement Legault, sous Christian Dubé, aura nommé 400 cadres, un écart d'environ 900 avec les quelques 1300 cadres supprimés sous Gaétan Barrette. Dans une autre de mes chroniques sur la Maison des fous, un ex-président du conseil d'administration d'un CIUSSS avait dénoncé les nids de corporatisme de ces conseils où chacun défend son territoire. Selon lui, les conseils d'administration actuels sont une décoration sans réel pouvoir puisque l'évaluation du PDG du CIUSSS, entre autres, est la prérogative du ministre. Les gestionnaires de qualité sont paralysés dans une bureaucratie indescriptible, m'avait-il écrit. Son cloche semblable d'un autre ex-président de CIS dans cette chronique. La bureaucratie étouffe l'initiative et la créativité. Si le réseau de la santé était une entreprise privée, il y a longtemps qu'il serait en faillite. Les pleins effets de la nouvelle loi prendront quelques années à se faire sentir, probablement après le prochain renouvellement des conventions collectives dans 3 ou 4 ans. Ce délai devrait permettre aux partis d'assimiler les changements progressivement. La loi s'attaquera donc au carcan syndical en santé, me dit-on, et elle sera sans doute fort critiquée. Des contestations seront probablement entamées par les syndicats, celui des infirmières comme des médecins, notamment concernant la vache sacrée de l'ancienneté et de la compétence. Il faut se demander si cette centralisation d'une partie de la gouvernance du réseau aura pour effet de réduire la bureaucratie ou de l'augmenter. Les doléances des nouveaux conseils locaux seront-elles entendues? Quoi qu'il en soit, le gouvernement Legault apparaît déterminé à aller de l'avant, une fois les compromis intégrés à son projet de loi et à rendre le réseau plus efficace. Il juge qu'il a une occasion en or de faire cet important changement de culture en ce début de mandat, vu son appui populaire important aux dernières élections. C'était « La loi s'attaquera au carcan syndical », un texte de Francis Vaille, paru le 27 mars 2023 dans La Presse. Les événements culturels se mettent au vert. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 25 avril 2023 dans Le Devoir. Les bottines ont suivi les bobines. Le dernier rhinocéros, court-métrage récent du réalisateur Guillaume Harvey, traitant du sujet grave de l'éco-anxiété, a évidemment tenu à mettre en place de bonnes pratiques éco-responsables. Le plateau a donc réussi à respecter les 5 R de la Bible verte. Refuser l'usage unique, réduire la consommation, réutiliser les objets, recycler et rendre à la terre. Composter, quoi. Concrètement, le tournage n'a généré à peu près aucun déchet, sauf pour une scène illustrant le gaspillage qui a nécessité un décor avec assiettes jetables et ballons en latex. Finalement, la production de la Creative Film a reçu, en novembre 2021, le prix du plateau de tournage éco-responsable à la 10e remise des VIVA, récompense des événements éco-responsables au Québec. C'est vraiment magnifique ce qui a été fait dans le milieu du cinéma et de la télé en peu de temps, résume Caroline Voyer, directrice générale du Conseil québécois des événements éco-responsables qui distribue les VIVA. L'organisme encourage les bonnes pratiques pour réduire les conséquences environnementales des activités, développer des habitudes de développement durable et partager l'expertise existante. Le Conseil et le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec ont aidé à fédérer et à stimuler tous les partenaires autour du projet On tourne vert, lancé il y a 2 ans. Les producteurs, les réalisateurs, les syndicats professionnels et même les écoles de formation. Les efforts favorisent autant les lunchs bio et végétariens que le covoiturage. Certaines productions n'impriment plus d'affiches. Les trois choses qui font le plus de différence sur les plateaux, on le sait maintenant, ce sont les déplacements, les achats de matériel incluant les repas, dont la viande, et les dépenses énergétiques, ajoute la directrice. Pour être encore plus efficace au Québec, il faudrait rendre accessible l'hydroélectricité partout pour remplacer les génératrices, même à Montréal. Vancouver a agi dans ce sens. Du vert pour ne pas rougir. L'organisme d'économie sociale, créé en 2008, a accompagné des milliers d'événements et formé des milliers de professionnels. Il a même participé à la définition d'une norme en gestion responsable d'événements appliquée depuis 2010. Le Carrefour, c'est ainsi que le présente la directrice, travaille en art vivant depuis une décennie et intervient sur les plateaux de tournage depuis 4 ans. Au début, il fallait convaincre les gens de poser des gestes éco-responsables, dit Mme Voyer. Les organisateurs d'événements ne voulaient pas investir dans la formation. Les gens ont réalisé, peut-être davantage avec la marche pour le climat en 2019, qu'il fallait passer à l'action concrètement. Il nous reste encore beaucoup d'efforts à faire, évidemment, mais on peut dire que nous n'avons pas à rougir de certaines réussites. L'accréditation SAN Éco-Responsable encadre les démarches exemplaires et reconnaît le niveau de performance des lieux de diffusion. C'est le cas du théâtre Paradoxe, installé dans une ancienne église dans l'ouest de Montréal. Le conseil a aidé à développer une stratégie de verdissement impliquant le réemploi du mobilier religieux, du compostage, l'utilisation de verres réutilisables, des connexions avec la vie de quartier et même une gouvernance plus transparente et paritaire. Le conseil utilise les outils canadiens Creative Green, dérivés des versions originales britanniques, pour évaluer l'empreinte carbone des activités. L'Angleterre se démarque vraiment en art vivant, dit Mme Voyer, mais pour l'événementiel, franchement, je crois que le Québec n'en vit personne. Des festivals comme Mutec ou le FTA ont une longueur d'avance pour leur éco-responsabilité. Vous écoutez « Les événements culturels se mettent au vert », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 25 avril 2023 dans Le Devoir. Et les super-géants comme les festivals de jazz ou d'humour? Je ne les nommerai pas, répond poliment la directrice. Un bilan récent du tournage du film « La Meute » d'Anne Aymon, à venir à l'automne, a montré un niveau de conséquences environnementales beaucoup plus bas que ce qu'affichent les tournages américains ou français. Là-bas, un tournage moyen peut générer 1000 tonnes de déchets en carbone, et ici, avec cet exemple, c'est 10 fois moins. Nos budgets sont plus petits, nos équipes sont plus petites, et ça fait une différence, dit Mme Voyer. En plus, on a l'hydroélectricité. La compagnie de cirque La Marche du Crabe utilise la grille d'évaluation pour calculer les effets de ses tournées, de ses bureaux, de toutes ses activités. On ne demande pas aux artistes de cesser les tournées, mais de les organiser mieux en restant plus longtemps dans une région. Par exemple, de tourner autrement, dit la directrice Voyer. Mais on s'entend. On ne fait pas de tournées comme The Weeknd avec 25 camions. Et le jet pour la vedette? Ce modèle de gaspillage peut engendrer encore pire. Las Vegas fait se déplacer environ 40 millions de personnes par année dans le désert pour voir des spectacles, vivre à l'air climatisé et jouer au golf. Le premier choix éco-responsable, c'est de réduire, termine Caroline Voyer. Nous, au Conseil, on en fait beaucoup d'événements et je demande à mes équipes d'en faire moins, mais mieux. C'est un dilemme toutefois difficile à résoudre. Comment peut-on encourager nos artistes, notre culture, sans verser dans la surconsommation et le gaspillage? Une perspective de femme. L'éco-responsabilité a-t-elle un sexe? Le Conseil québécois des événements éco-responsables a été fondé en 2008 et est encore chapeauté par le Réseau des femmes en environnement qui date de 1999. Les fondatrices avaient la volonté de mettre de l'avant des études en santé environnementale différenciées selon le sexe et le genre, explique la directrice générale, Carline Voyer. Jusque-là, elles étaient surtout faites dans des milieux industriels où travaillaient surtout des hommes. Autre signe féministe. Le premier événement que s'est occupé à rendre éco-responsable le Conseil a été la Marche mondiale des femmes en 2000. L'organisme travaille maintenant avec une cinquantaine d'événements par année. Les femmes sont généralement dans les solutions très concrètes et pratico-pratiques, alors que les hommes essaient de trouver des technologies qui devraient tout changer, explique au Devoir Anne-Catherine Lebeau, directrice générale d'Écocéno, entrepôt d'économie circulaire des arts de la scène. Elle a cofondé cette OBNL avec trois autres femmes du milieu de la culture. Des solutions existent déjà et les femmes les utilisent. Les femmes sont aussi beaucoup dans la réutilisation, le réemploi à échelle humaine, alors que le recyclage se fait avec de grosses machines. On est dans le care aussi. On prend soin de la planète avec l'idée d'avoir moins de biens et plus de liens. C'était « Les événements culturels se mettent au vert », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 25 avril 2023 dans Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.